vous dire aussi, n'hésitez pas si vous, si vous ressentez le besoin de me contacter, de m'écrire, de téléphoner éventuellement.
Ton email est disponible sur le
sur regardezcequi.org ou même sur les.org, ça arrive chez moi. Hein. Et je veux dire, si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin, je suis là pour ça. Alors, ça se fait par email, ça peut se faire par téléphone et ça peut se faire bientôt aussi chez moi.
Par Skype, tu fais un petit peu ?
Skype, oui, mais c'est pas, je suis jamais sur Skype, donc il faut reprendre un rendez-vous sur Skype. Mais on peut basculer sur Skype. C'est pas très utile de se voir. On se connaît en plus. Alors. Et puis, on panache.
Tu exerces
Tu exerces pas.
Parce que tu as été, j'ai pas compris, mais tu étais médecin, c'est ça, thérapeute
Ouais, j'étais médecin psychothérapeute pendant plus de 20, pendant une vingtaine d'années, plus de 20 ans, je sais plus.
Est-ce que tu pratiquais aussi le système familial? En fait, c'est ce qu'on appelle en anglais internal family systems. L'équivalent de ça, il y a dialogue intérieur aussi, une autre école.
Je connais pas. Ça n'a pas d'importance, on n'est pas là pour ça.
Non, c'est amusant,
ça va. Par exemple, en prenant l'exemple de discours comme ça, ben c'est des choses qui me bloquent. C'est là, je ressens un blocage. Je dirais de connaissance générale, quoi. Quand ça part dans tous les sens, j'ai beaucoup de mal à suivre. Et ben là, par exemple, ça se manifeste par un tremblement, un malaise. Tiens, il y a des
choses. L'impression de pas être à la hauteur.
Oui, ça c'est un sentiment que j'ai régulièrement.
Nisargar Tata Maharaj vendait des cigarettes dans la rue. Sa culture était très faible, tu vois. Ramana Maharshi, 16 ans, t'imagines la culture qu'il devait avoir. Il y en a d'autres. Bernard, je ne sais pas si tu as déjà entendu, vous avez déjà entendu parler de Bernard, il était CRS. Enfin, etc. Quoi, je tiens. Il y en a qui étaient SDF. En prison, en camp de concentration. C'est-à-dire que l'éveil est pour tout le monde. Ouais. Il n'y a pas besoin d'avoir de connaissance de quoi que ce soit. À la limite, ça encombre plus qu'autre chose. Parce que tu crois que tu sais. Ça, tu vois, c'est plutôt un handicap. Les gens qui ont plein de connaissances, ils sont beaucoup dans le mental, souvent. Et le mental, il n'a pas accès à ça.
En tout cas, j'ai peut-être la chance d'avoir un mental qui est à la fois très. Où il travaille beaucoup, mais en même temps où le côté raisonnement, je m'épuise très vite. Donc, très rapidement, quand j'essaie de suivre une discussion et que je vois que c'est trop. C'est trop difficile. Je lâche assez rapidement.
Alors, tu sais, moi qui étais très mental et qui le suis encore pas mal, de plus en plus, je lâche les discussions comme ça parce que ça ne m'intéresse plus du tout.
Mais c'est vrai que j'ai réussi à faire ça aussi au niveau de mes études. Moi, je passais plutôt par le côté concret. Il fallait toujours que je sente à quoi ça sert. Et quand on passait par, pas forcément pratique manuelle, mais il fallait que ça soit des choses concrètes, factuelles.
Côté pragmatique, j'ai dit. Oui. Pratique, pragmatique, je voulais dire.
Et quand on faisait des démonstrations d'un phénomène ou autre, j'étais souvent perdu dès les premières lignes de la démonstration, quoi. Et je pouvais laisser la démonstration se faire, Mais à la fin, je retombais toujours sur mes pas de toute façon, puisque je pouvais me raccrocher à la conclusion, c'est-à-dire au phénomène auquel on voulait arriver, quoi. Sans passer par le côté trop théorique.
Bien sûr, oui, ben oui. Chacun la façon dont on fonctionne, on est différent à ce niveau-là, tu vois. Et surtout, comment c'est vécu aujourd'hui tout ça ?
C'est à la fois bien et pas bien en même temps, quoi.
Alors, le côté pas bien, c'est quoi ?
C'est le côté pas bien, c'est une sensation de ne pas être à ma place, de toujours être en décalage.
Alors si tu restes avec cette sensation de ne pas être à ta place, d'être en décalage, ça se manifeste où dans le corps ?
C'est une contraction.
Contraction corporelle. Mmh. En elle-même, la contraction. Elle n'est pas dramatique.
Non, elle n'est pas.
Mmh. Tu peux rester avec. Si tu restes vraiment avec cette contraction, et avec ce côté, je ne me sens pas à ma place. C'est comment ?
C'est léger.
C'est léger. Tu vois comment ça peut s'inverser très vite. Tiens, je me sens pas à ma place. Tout de suite, il y a l'idée qu'il y a un problème. Et si on regarde de près, si on reste simplement avec, pas longtemps, t'as vu. C'est léger, je me sens pas à ma place. Bon, c'est léger. Bah oui. Ça n'a aucune espèce d'importance en soi. Tu vois ce que je veux dire?
Alors, ce qui arrive souvent, c'est que ça les adhère. Ça dure pas longtemps. C'est léger. Je constate que c'est pas dramatique. C'est une demi-seconde. Et puis, par contre, de nouveau, la contraction souvent revient. Et elle, ça peut durer beaucoup plus de temps. Quoi.
Oui, c'est grave.
Non.
Non.
Plus maintenant.
Voilà. C'est-à-dire que si tu es vraiment avec la contraction, ou bien il y a des pensées associées qui vont apparaître et qui vont être vues pour qu'elles soient dépensées, ou bien la contraction va se défaire d'elle-même si elle n'a pas de raison d'être. Parce qu'en même temps, il y a des moments où il y a besoin de contracter. Quand tu tiens un marteau, il vaut mieux le tenir correctement, sinon ça ne va pas marcher, quoi. Donc les contractions sont aussi nécessaires. Voilà. Il y a quelque chose de fluide qui se met en place et de non dramatique. Plus rien est un problème. C'est l'autre jour à la conférence, quelqu'un qui parlait de tristesse, où finalement, c'est doux, quoi. C'est doux, la tristesse. Si elle n'est pas critiquée, jugée, si on pense que c'est tellement dramatique ce qui arrive... Et s'il n'y a pas toutes ces pensées-là, si toutes ces pensées ne sont pas crues, la tristesse en elle-même, c'est de l'amour de toute façon.
Alors là où c'est plus léger pour moi, c'est quand je me dis dans ma tête... je constate de la tristesse. Là, c'est je suis tout de suite plus léger. Par contre, si je me dis je suis triste, là, par contre, c'est beaucoup plus c'est plus lourd et ça dure plus longtemps.
Ben oui.
la pensée alimente la sensation.
Ça se répond, là, ça se répond. La pensée alimente la sensation, ça dépend des cas, je sais pas, dans l'absolu, je sais pas. Il y a des cas oui, des cas non. Il y a des cas où c'est la sensation qui alimente les calices de pensée, je pense aussi. Mais si tu veux, dans ce que tu dis, c'est très clair, Chérif, c'est que il y a la pensée « je suis triste », la pensée « je » vient aggraver, vient dramatiser l'expérience. L'idée que ça m'arrive à moi dramatise. Alors que s'il est constaté qu'il y a de la tristesse, ça arrive en moi, il n'y a pas de drame. C'est pareil pour l'impression de ne pas être à sa place. Si je ne suis pas à ma place, ça devient un drame. Si y a l'expérience de ne pas être à sa place, c'est juste une expérience, il n'y a pas de problème. Pareil pour tout, en fait. D'où l'intérêt vraiment de te regarder, mais cette pensée « je », qu'est-ce qu'il y a derrière ? En réalité, il n'y a rien. C'est juste une pensée, quoi. Est-ce que réellement il y a un moi derrière? Parce que c'est elle qui fait que ces drames naissent, ces drames apparaissent. Puis comme après il nous arrive quelque chose de dramatique, on va vouloir réagir à ce drame. On va vouloir réparation, on va vouloir quelque chose d'autre qui ira mieux. Ça crée tout un système, quoi. Tout, plein de choses, toute une histoire personnelle, l'histoire de moi, à partir de rien, une croyance. C'est pareil, imaginez un enfant qui espère tellement un tel cadeau sous le sapin le jour de Noël, offert par le Père Noël, et il n'est pas là. Vous voyez le drame qu'il peut en faire. Le Père Noël, il n'a pas pensé à moi, il ne m'a pas offert mon cadeau que je voulais tellement. Ça se comprend très bien. Mais sans l'idée du Père Noël, ça change un peu la donne. On va s'apprendre à nos parents. Alors, est-ce qu'il y a un moi ou qu'il n'y en a pas?
Les deux. Les deux.
Mauvais regard. Science de lunettes.
Ça, si je réponds qu'il y a un moi, il faut que je sois en mesure de le trouver. Ça.
Ah ouais.
C'est compliqué là.
Eh ouais.
Je suis trop paresseux pour ça.
Eh ben oui. Aïe, aïe, aïe. Ah, si j'étais pas si paresseux, la réalisation arriverait, mais comme je suis paresseux, je peux pas.
Justement, c'est ça pour que ce travail, ou pas ?
Aucune chance.
Sur le plan absolu, il n'y en a pas. Ouais. Mais dans la société, c'est bon. Il faut faire comme s'il y en avait.
Mais on s'en fout, c'est un discours mental, Kai. Regarde en toi. Est-ce que oui ou non, il y a un moi? Est-ce que tu en trouves un?
Non, si j'en cherche, ce n'y aura pas.
Alors, quelle conclusion en tires-tu?
Dans la société...
Quelle conclusion en tires-tu pour toi? On se fiche de la société et de ce que vivent les autres, là, maintenant. C'est toi, avec toi-même. La réalisation ne va pas arriver à la société. Mais oui, mais j'en ai rien à faire qu'ils pensent que je suis fou, les gens. Moi, je le dis des fois aux gens. Même au Quidam, enfin, des gens que je croise, tout ça, avec qui je suis en relation, c'est évidemment qu'il n'y a pas de moi. Je leur sors que ben, non, c'est pas vrai, t'as pas choisi ça. Je leur dis aux gens, moi, pourquoi je leur dirais pas? Ben, peut-être qu'ils me traitent de faux, qu'est-ce que ça peut faire?
Non, c'est le docteur qui l'a dit.
Bon, non, c'est pas docteur.
Bah, ils ont cette innocence, cette simplicité de le voir comme ça, et puis des fois ça peut leur rendre service aussi.
Ah, bien sûr, oui. Moins de mental, ça aide.
Il y a quelque chose quand même qui se revive.
Ah, oui, ça m'aurait étonné aussi.
Il y a une petite voix, c'est mignon, hein. Cette petite voix qui, quelque part, qui cherche la reconnaissance et qui dit bon. Si on lâche, on gagne tout ça, la paix, le machin, tout ça. Si on croit qu'il n'y a pas de moi, plein de bénéfices. Mais la petite voix, elle dit quand même, après tout ce que j'ai fait,
moi, je veux être reconnue. C'est beaucoup plus important que d'être la paix même. C'est trop drôle. Mais tu arrives à la croire, tu trouves c'est intéressant, cette résistance.
J'observe que... elle est là. Après, évidemment, quand je constate ça,
oui,
et je regarde le bénéfice proposé en face, forcément, je me dis...
De quel côté penche la balance?
Je constate quand même qu'il y a tiraillement. C'est vrai qu'il y a une patte. Oui, mais quand même.
Mais oui, mais c'est tout à fait ça, c'est vrai.
Et là, faut essayer de négocier en disant, d'accord, alors on n'a qu'à prendre
et voilà,
ça.
Mais vous
quand
êtes...
même, on garde un petit peu de l'eau.
Mais exactement. Hier, on parlait de la peur comme étant l'un des plus gros obstacles à l'éveil, la peur de la mort, de l'anéantissement, de la dissolution, etc. Et là, tu en as un autre, une autre résistance, une autre chose qui fait, c'est que, mais moi, je veux, moi, être moi.
Oui.
Je veux qu'il y ait un moi. Je veux être reconnu, je veux obtenir ce que je veux. Oui, c'en est un autre.
Oui.
Mais t'as vu la réaction ici, franchement, c'est payé de rire, quoi.
Oui. Non, mais je trouve ça mignon, parce que c'est vrai, c'est...
Ah oui, c'est très mignon, c'est très mignon. C'est un jeu sans fin. Et tant qu'il t'amuse, continue.
Déjà, je le constate avec tendresse et mieux qu'avec colère.
Oui.
Je constate que c'est là.
Je veux que tous les efforts que j'ai faits soient reconnus. On ne sait même pas par qui, d'ailleurs.
Par soi-même.
Ah, ça, tu peux le faire tout de suite. Mais non, parce qu'il n'y a pas de moi. Moi n'a jamais fait d'effort et moi n'a jamais rien réalisé, rien fait. C'est nul.
Oui, c'est là où quelque part, c'est étonnant. Ce que j'ai envie de dire, fais tout le boulot psy là où ils disent en effet, tu as un problème de reconnaissance. Il faut que tu te reconnaisses toi-même, etc. Et là, peut-être, tu viens de dire, ouais, laisse tomber parce que de toute façon, c'est pas la peine, il n'y a même pas de moi. Donc.
Ben évidemment.
Merde. Et en plus, je fais tout ça pour rien.
Mais alors, la psychothérapie, d'une façon générale, est fondée sur l'idée d'un moi,
oui, j'entends,
à améliorer, à guérir.
Le spirituel aussi.
La perspective non duelle dit qu'il n'y a pas de moi. Donc,
c'est notre proposition.
Voix permet de voir qu'il n'y a pas de moi. Donc, comme il n'y a pas de moi, on ne peut pas le faire aller mieux ou moins bien. On ne peut pas le guérir, il n'y en a pas. Ça met fin au jeu de la psychothérapie. Et en même temps, quand on écoute ce que je dis, comment je vous amène à regarder les choses, on pourrait prendre ça pour une thérapie.
Oui, ma psy.
Sauf que l'orientation n'est pas du tout la même.
Voilà.
Le but n'est pas de guérir quelque chose, mais de réaliser ce qui est tel que c'est.
Pardon,
je suis content d'être pas tout seul à rire ici.
Non, mais à l'intérieur, ça dit plein de trucs drôles.
Mais raconte.
Bah, je vois, ça dit. Oui, non, mais c'est bien gentil tout ça, mais il faudrait pas nous mettre d'accord, parce qu'elle raconte. Tu sais, après ça, il y a un côté.
tu ne mettras pas les psys et les non-duels d'accord sur ce genre de point. Hein. Il y a peu de chance. Alors, il faudrait que le psy ait une optique non-duelle. Parce que l'optique, la perspective non-duelle peut regarder la perspective psy et complètement en parler, comme on l'a fait tout à l'heure. Mais la perspective purement psy ne peut pas adopter la perspective non-duelle. C'est l'histoire des pupilles russes, hein, de nouveau. Tu vois ? La physique newtonienne ne peut pas comprendre la physique quantique, mais l'inverse est vrai.
C'est-à-dire que dans la pratique psychothérapie, quelle qu'elle soit, il y a quand même la loi de causalité. C'est-à-dire que tout a une cause.
Dans l'idée de la plupart des psychothérapeutes, oui.
Donc on essaie de remonter à la
source. C'est un cadre,
pour
oui.
Que l'effet disparaisse.
Par exemple.
Alors que dans la non-dualité, il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet.
Ça arrive. Apparemment, il y a des causes et des effets, on ne peut pas en douter.
Mais tu
jettes un caillou dans l'eau, ça fait plouf et des ronds. On ne peut pas en douter. Mais c'est le niveau existentiel.
Les agréateurs disent qu'on peut penser qu'il n'y a pas de cause, mais on peut penser qu'il y a un infini nombre de causes. On revient au même.
Et les deux cas, c'est d'une pensée.
Donc, en psychothérapie, tu me corriges hein, si je dis n'importe quoi. On passe du temps à reconstruire un personnage, à le restructurer d'une façon à peu près cohérente pour mieux y foutre le feu, quoi. Oui.
Non.
Moi, j'y fous le feu à la fin. Il n'y a plus rien. Si...
Mais
il faut avoir quelque chose à foutre là, mais d'un point de vue psychothérapie.
Ce que je disais tout à l'heure, c'est que d'une façon générale, mais ça, c'est pareil. C'est l'état de conscience du thérapeute qui va faire la qualité de la chose. Tout est là. Hein. D'une façon générale, la psychothérapie considère que le moi est une réalité. C'est tout. Et partant de là, forcément, ça a des conséquences, quoi. Toute croyance a des conséquences. Et on considère que c'est le moi qui va pas bien, que c'est moi qui vais pas bien, que c'est moi qui dois me soigner, que c'est moi qui dois faire quelque chose pour me soigner, pour aller mieux, etc. Parce qu'il y a l'idée d'un moi. Les prémices sont fausses. Mais pas seulement la psychothérapie, le monde en général. Il y a quelqu'un qui a dit, puisqu'on parle beaucoup des sectes en France, la secte la plus répandue dans le monde, c'est la secte du culte du moi. Et c'est complètement exact. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a qu'une.
Nous sommes tous égaux.
C'est la secte du culte du moi. Les gens croient en leur moi. Je crois en moi, mon Dieu, et je crois en toi, mon Dieu. Et, enfin, je crois en toi, mon moi, tu vois, et en avant, tu vois. Et je vais obtenir ce que je veux grâce à mes efforts. Il n'y a pas de moi. C'est perdu d'avance.
Même, enfin, je ne pourrais pas la ramener avec ma science, mais...
Vas-y, ramène-la.
Je suis allée écouter des physiciens dernièrement, là, quantiques, qui parlaient de la conscience, justement.
Oui.
Et il y a un lien, mais époustouflant entre le fait que la non-localité, par exemple, le principe de non-localité, qu'une chose est à la fois une particule et une onde.
Oui.
Ça prouve bien que la psychologie, c'est une espèce de... Enfin, déjà, c'est un rêve, mais c'est complètement aberrant par rapport à la réalité qui et la conscience quand on... Qu'il n'y a pas ce moi, qu'il n'y a pas des objets de la conscience, c'est complètement libre, c'est nulle part, c'est à personne, c'est totalement libre, c'est au-delà de l'espace-temps. Je trouve qu'il y a tellement de liens entre.
Là, on ne parle plus simplement de voir qu'il n'y a pas de moi, on parle réellement de ce qui est, c'est-à-dire que ce qui est évidemment en amont, au-delà, avant tout avant, avant le temps et l'espace, avant toute apparition de quoi que ce soit.
C'est ça.
Évidemment, oui. Au niveau physique, la physique quantique rejoint tout à fait ce que disent les mystiques par rapport à tout ça. Enfin, les mystiques, entre guillemets. Les réaliser. Pourquoi on m'appelle ça, on s'en fout.
Les allumer du bocal.
Mais parce que, pareil, la spiritualité, pour moi, la non-dualité n'est pas la spiritualité. On ne parle pas de Dieu, on ne parle pas de rapport entre nous et le divin. Alors, bien sûr, ça s'est appelé longtemps le divin. Mais si on l'appelait l'innommable, l'inconnaissant, l'inconnaissable, l'indicible, ce qui est, oui, en tant que tel, oui. En tant que d'un Dieu quelque part qui fait quelque chose et qui a une volonté propre et qui aime ou qui châtie, sûrement pas.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense que le moi existe, on lui oppose quelque chose de supérieur et une espèce de justice.
Ouais, je sais pas. Il y a un besoin de comprendre, d'expliquer la souffrance.
Si le moi disparaît, le Dieu disparaît aussi avec le moi d'une certaine manière.
Peut-être c'est un lien, je ne sais pas.
Parce que le moi, il a besoin, comme tu disais, d'une reconnaissance. La reconnaissance, si elle ne vient pas de l'entourage, on estime toujours qu'il y a une espèce de justice divine qui va pouvoir être apte, voilà, à la...
Mais ce n'est pas le moi, il n'y a pas de moi.
Oui, mais je dis... Quand on pense que le moi existe, si le moi disparaît...
Et qui ont ?
Le je, c'est pas grave.
Comment ?
Quand je pense que le moi existe...
Mais qui je ? Oui, pareil, c'est même pareil. Question.
Oui,
qui est ce moi qui prétend penser ? Y en a-t-il un ? Il y a des pensées qui s'imposent.
Pouvait être
lié. Tu vois, tu as vu ton piège toute seule là. Tu vois, c'est ça qui est bien. Moi, je pensais que.
Ouais.
Stop, tu sais que c'est une pensée. Est-ce qu'elle est vraie ?
Que la pensée était liée à l'histoire, à la mémoire.
Oui, tu penses ça. Est-ce que tu es sûr que c'est vrai ?
Non, mais justement, quand j'entends les pensées arrivent, ça veut dire qu'elles auraient une existence. Elles n'auraient pas une existence liée à la mémoire, forcément. Elles pourraient arriver comme ça.
Exact. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elles font. Et d'ailleurs, il est bien fallu qu'elles apparaissent une première fois, hors de tout contexte de mémoire. La première fois qu'une pensée est apparue.
Elles sont souvent adaptées à un mode de vie, à un environnement,
ça, c'est ce qu'on croit.
À une culture. Il y a des pensées qui existent.
Elles se travestissent pour donner cette impression-là.
D'accord.
Ouais.
Elles prennent forme, quoi. Selon l'environnement où elles apparaissent, c'est ça ?
Elles apparaissent en fonction de l'environnement. Enfin, plus exactement, je dirais que dans l'univers de l'ensemble des pensées, certaines deviennent conscientes. Dans l'univers de l'ensemble de tes sensations corporelles, si tu regardes ton corps, il y a des dizaines et des dizaines de sensations en permanence. Souvent, tu n'en regardes même aucune. Et puis, de temps en temps, il y en a une qui t'intéresse un peu, tu la regardes. D'accord ? Mais les autres ont tout le temps été là. C'est pareil avec les sens. Tu regardes le sourire de la Joconde. Ben heureusement qu'il n'y a pas que le sourire avec rien autour. Ça ferait un peu vide. C'est-à-dire que le fond est aussi important que la forme, c'est-à-dire là où se porte l'attention. Sans le fond, la forme n'est rien. Le sourire de la Joconde sans le reste du tableau, c'est rien. Tu vois ? Puis tu regardes le sourire de la Joconde, puis après tu peux regarder les yeux de la Joconde, et tu oublies le sourire, mais il est quand même là. Et c'est pareil avec les sensations, c'est pareil avec toutes les perceptions. Quand on est concentré sur une tâche, on n'entend plus les sons, par exemple, mais ils sont toujours entendus par les oreilles. S'il y a un bruit fort, on va quand même sursauter, par exemple. Et pareil avec les pensées. J'ai l'impression, pour moi, les pensées, bon, j'y mettrai pas ma main à couper, mais l'impression vraiment que j'ai, c'est que les pensées sont des perceptions. Elles sont perçues par le cerveau. Et je pourrais dire que dans l'ensemble de l'univers des pensées, comme dans l'ensemble de l'univers des sensations et des perceptions, certaines sont captées plus que d'autres. L'attention se porte sur certaines plutôt que sur d'autres.
D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'on leur donne sens ? Est-ce qu'on leur donne sens par rapport à notre histoire ? C'est-à-dire qu'une pensée neutre apparaître à n'importe quel individu de n'importe quel monde, de n'importe quelle époque,
oui.
Et simplement on va l'habiller par rapport à notre histoire.
Exact. Monde. Quelque chose comme ça, oui, bien sûr. Ça colle. Mais en permanence, il y a plein de pensées dont on s'occupe pas. En permanence, si on fait attention, on se rend compte qu'il y a des moments comme ça qu'on est un peu en rêverie éveillée, par exemple, ou simplement tranquille. Si on ne fait pas attention. Mais si un millimètre d'attention se porte sur les pensées, on se rend compte qu'il y en a plein qui passent en permanence, des histoires qui se racontent, c'est tout le temps.
Et c'est pas le cerveau qui crée la pensée.
J'en sais rien. Il y a des pensées. Est-ce que c'est le corps qui crée les sensations? Il y a des sensations.
Il y a des interprétations grâce au cerveau, quoi. Des informations qui arrivent, en fait.
Il y a des informations qui arrivent qui sont interprétées par le cerveau. Oui, parce que... Oui. Parce que tu regardes quelque chose, tu me regardes, là, par exemple. Ouais. Tu dis, c'est Gérard. C'est un homme. Ouais. Mais ça, c'est déjà des interprétations. En fait, tu vois quoi? Les yeux voient des taches de couleur. Ouais. Le reste, c'est de l'interprétation. Ou même la douleur. Qu'est-ce que c'est la douleur? En réalité, c'est des influx nerveux, donc un courant électrique, transmis de neurone en neurone par des neurorécepteurs, interprété par le cerveau comme une douleur, qui renvoie bouge ta main. Enfin, qui renvoie quoi? Des impulsions électriques. En réalité, il n'y a pas de douleur. Il y a des milliers d'impulsions électriques envoyées à une certaine fréquence, qui sont interprétées comme une douleur. Ça, scientifiquement, on le sait.
Ça correspond à une zone du cerveau, oui, parce qu'il y avait cette expérience, je ne sais plus à quelle époque, là, où il y avait un type qui avait reçu une barre de fer qui l'avait transpercée au niveau du crâne et qui avait traversé tout le cerveau, en fait. Et, donc, c'est vrai, cette histoire. Mais ils ne sentaient plus rien.
Il n'y a pas que dans les films d'horreur.
Non, mais c'est vrai, on s'était rendu compte que ça avait atteint une zone... Et que ça avait détruit une zone, en fait, une zone d'information,
exact,
qui créait l'impression de douleur. Mmh. Et donc, on pouvait lui faire mal, il ne sentait rien.
Oui.
Rien du tout.
Ah, elle est...
Il y a des personnes qui également...
Les lépreux, ils ne sentent plus la douleur à un moment donné.
Tu voudrais voir. Du cerveau, il y a des personnes qui d'ailleurs c'est dangereux parce qu'ils peuvent se brûler avec un fer passé, etc. Ils ne sentent pas la douleur. Ça leur demande une attention, une très grande vigilance.
René, il n'y a même pas cette intention. Ça a envie de parler, tu parles.
J'ai envie de parler. J'ai feuilleté un livre de neurosciences, La biologie de la conscience. Parce que je trouvais que, franchement, parce que j'essaie de comprendre, quand même. Et ce neuroscientifique émet la théorie que là, vous allez bondir, mais que c'est le cerveau qui crée la conscience. Bon, je sais bien que tout de suite, vous allez vous précipiter.
J'en crois pas une seconde, une miette.
Mais... Moi non plus, mais bon. Quand même, ça mérite, puisque c'est une...
Bah, et les expériences de mort imminente, exactement, où les gens... on a un électroencéphalogramme plat, et les gens te racontent exactement ce qui s'est passé. Comment il explique ça, là? Sans aller chercher midi à 14h.
J'ai trouvé ça intéressant, parce qu'évidemment, c'est pas du tout dans l'air du temps, et c'est rejeté, balayé, mais ça mérite quand même déjà, parce qu'il a étudié le cerveau, et il prétend que le cerveau s'est développé de cette manière chez nous, les bipèdes là, supérieurs, là, d'une manière plus complexe que chez le chimpanzé, parce qu'il y a quelques différences, parce qu'on a justement ce moi, selon lui, est une illusion nécessaire. À un moment, alors là c'est un peu...
C'est sa pensée, c'est ses croyances.
Non, parce que, c'est-à-dire que il dit que tout dans ce qui est l'univers biologique se développe pour se maintenir, pour progresser, c'est un rapport avec Newton, certainement, je ne sais pas, ou Darwin, je ne sais plus. Mm-hmm. Darwin, ouais. C'est-à-dire que rien ne subsiste si ça n'a pas une utilité pour une amélioration de la vie elle-même. C'est-à-dire donc, que le cerveau s'est développé de cette manière complexe, avec la possibilité d'imaginer, et donc de vivre plus longtemps, parce qu'on peut inventer des stratégies, parce qu'on se rappelle de ce qui s'est produit avant, et donc on peut prévoir donc cette capacité d'avoir induit une espèce de temps et donc de moi, puisque c'est moi qui me... Voilà.
Oh, c'est pas vrai tout ça. C'est...
Ah, bah moi je trouve qu'il faut pas jeter la science comme ça.
Non, je jette pas la science comme ça, mais qu'est-ce qui fait de l'histoire des singes qui sur une île ont tout d'un coup trouvé de mettre les patates, lavant les patates dans l'eau de mer, elles avaient un meilleur goût parce qu'elles étaient salées que dans l'eau. Et que des singes sans aucune connexion à des milliers de kilomètres de là sur une autre île, tout d'un coup se mettent à faire la même chose. Elle est où la conscience? Il est où l'apprentissage? Puisque les bêtes, elles ne se souviennent pas d'un labyrinthe qu'elles ont déjà traversé une fois.
Si.
Ben alors, donc l'apprentissage, il existe, la mémoire, elle existe chez eux aussi. Et en plus, la transmission de pensée à travers l'espace, il existe aussi. Tu te rends compte ? Il faut tenir compte quand même de tout ça. C'est-à-dire que, c'est d'un point de vue strictement existentiel, évidemment, on peut faire des relations de cause à effet, évidemment, tout sert. Évidemment, tout a un sens. Évidemment. Du point de vue de ce qui est, il n'y a rien là. C'est même pas la peine d'aller se creuser les cervelles, essayer de comprendre quelque chose. Il n'y a rien. C'est une illusion, c'est une apparition, c'est un rêve. Quelle est la réalité du rêve quand tu te réveilles le matin ? Tu vois ? C'est-à-dire qu'il y a... C'est pas la peine ! Si quelqu'un a un grand plaisir à faire ça, il n'y a aucun souci.
Ah oui, déjà, ça aide à résoudre des problèmes physiques, soulager la souffrance des gens qui ont des problèmes Alzheimer, ou je ne sais pas, toutes sortes de...
Oui, par rapport à ça, mais là, c'est pas ce dont tu me parles. Mais si quelqu'un se fait un grand plaisir à imaginer une théorie de je ne sais pas quoi, ben pourquoi pas, je veux dire. Mais... C'est juste une théorie de je sais pas quoi. C'est juste des pensées. Ça n'a rien à voir avec ce qui est. Enfin, ça a à voir, puisque c'est une manifestation de ce qui est.
Mais la vie psychique existe quand même.
Pardon ?
C'est tout individu.
La vie psychique ? Ben oui, il n'y a aucun doute là-dessus.
Donc, on ne peut pas... Il faut aller quand même doucement, en jetant totalement le moi, qui est...
Ne jette pas le moi, je dis qu'il n'y en a jamais eu.
Oui, c'est une illusion.
Je dis que c'est une pensée.
C'est une illusion.
Mais je ne jette pas les rêves. Il y a toujours eu des rêves. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que ce n'est qu'un rêve. Un rêve. Et que ça ne traduit pas la réalité. C'est issu de la réalité. Ça la reflète peut-être, mais ça ne la traduit pas. Un mirage, ça, c'est issu de la réalité. Ça reflète la réalité. Mais c'est réel. On le voit. Mais ça n'a pas une réalité définitive. Et tu ne peux pas te désaltérer à l'eau de l'oasis d'un mirage. Et c'est pareil pour ce monde. C'est réel, ça existe réellement, ça n'est pas. C'est pas la même chose, tu vois. Et surtout, par rapport à ces théories, ce que moi je dirais, c'est que on est tellement plus grand que ça. Ce que je suis est tellement, ce que nous sommes est tellement plus grand, tellement plus vaste, tellement plus ouvert, tellement plus libre que ça. C'est dommage de se restreindre à ça.
Mais ça, j'ai l'impression de ne pas être entendue ni comprise ni admise.
Désolé.
Je ne parle que de gens finalement qui cherchent avec dévouement, d'une certaine manière, à comprendre, à connaître. Et c'est. C'est justement même ces scientifiques arrivent eux-mêmes à démontrer l'illusion du moi et du temps aussi.
Bah
et donc au lieu d'en rester à des oui on est d'accord en fait, on est d'accord simplement, moi je parlais des scientifiques parce qu'on parle souvent plus des gens, des traditions dites mystiques ou marches, etc. qui c'est tout à fait exceptionnel, mais on peut aussi parler de ce qui se passe maintenant, ce qui est découvert maintenant, grâce à la simple observation des faits.
Ah ben ça, c'est sûr que l'observation des faits au niveau physique quantique montre effectivement ce qu'ont dit les mystiques de tous les temps depuis des millénaires. Ça, c'est sûr.
Il y a un film sur un documentaire film sur YouTube qui s'appelle The Signs, le signe. C'est en anglais sous-titré en français. Et il y a actuellement des astrophysiciens ou des scientifiques, même des chimistes ou des qui ne sont pas venus à une conclusion, même ils ont réussi à démontrer la preuve de l'existence non pas de Dieu, mais d'un designer intelligent, c'est-à-dire d'une intelligence. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à prouver que cet univers n'était pas créé par hasard, n'était pas le fruit du hasard, que ce n'était pas possible.
Ouais, tu sais ce que veut dire hasard en arabe ?
Non, ça veut dire quoi ?
Le doigt de Dieu.
Le doigt de Dieu. Et donc,
mais est-ce que ces connaissances, est-ce que tout cela vous aide à réaliser qu'il n'y a pas de moi, vous, ici, maintenant ?
Moi, je réalise qu'il n'y a ni moi, ni non-moi. Et la logique de Nagarjuna, il dit que de toute façon, on peut dire que des conneries. Tout ce qu'on dit.
Ça, c'est vrai.
C'est la négation.
C'est
C'est sûr que tout ce qu'on dit, de toute façon, sera toujours faux, parce que ce qui est tellement plus grand.
Parce que, bon,
on n'est jamais que dans le monde de rêve.
Quand tu as dit qu'il y a un moi, évidemment, parce que quand tu crois dur comme ça qu'il y a un moi, évidemment, il faut lui dire qu'il n'y a pas de moi. Mais il y avait quelqu'un dans la salle, tu te souviens, Morodé, qui a dit, alors c'est, on tombe dans le nihilisme.
Oui. Ça n'a rien à voir.
Je lui ai dit, effectivement, si tu crois qu'il n'y a rien, il n'y a pas de non-moi, ça veut dire qu'il n'y a rien. C'est aussi, bah, tu peux, en ce moment-là, tu crées un nouveau concept, il n'y a pas de moi, donc il n'y a rien, et tout tombe dans le nihilisme.
Ben oui, parce que de nouveau, c'est une pensée. C'est de nouveau, c'est une pensée. C'est pas l'expérience directe de l'absence d'un individu, moi.
Et l'absence de moi ne signifie pas rien. Absolument. On n'a pas dit qu'il n'y avait rien.
Exact.
Il y a juste absence de moi tel qu'il est considéré dans la société.
Exact.
Et que c'était visiblement...
Que c'était juste une croyance, comme le Père Noël. Arrêter de croire au Père Noël, c'est pas du nihilisme. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de dire un truc comme ça.
Par contre, qu'est-ce qui nous anime? On ne sait pas. Enfin, on peut le ressentir visiblement.
Ben, tu le sais. Essaye d'arrêter d'être. Et tout de suite, tu sais qu'il y a quelque chose qui est là.
Voilà.
Même si tu ne peux pas le nommer.
Voilà, c'est ça. On
est même si tu ne peux pas le nommer.
Pas ce que c'est.
Mais c'est normal, puisque c'est là avant tout mot, avant toute existence.
Oui, donc ça n'a rien à
voir. Avant tout objet. Ah, évidemment.
Pour le dire sans danger, on peut dire qu'il n'y a ni rien, ni quelque chose. Ça veut dire que... ça veut dire que...
Non, il y a quelque chose.
Ce qui est le réel n'est pas un objet.
Il y a quelque chose.
Donc, comment définir ce qui n'est pas un objet? Évidemment, le moi va transformer l'absence d'objet d'un non-objet en un objet.
Tu sais tout cela. Tu as beaucoup lu. Tu sais énormément de choses. Tu en as compris plein.
J'ai lu, évidemment, mais c'est pas... Tu peux lire tout ce que tu veux, tu deviens un technicien d'Advaita. Alors que le technicien est là à l'appel. On a besoin d'artistes d'Advaita. C'est la tradition. La véritable tradition d'Advaita n'affirme pas comme ça, avec un marteau sur la tête des gens, la réalité ultime. Mais... prends la personne là où il est.
Heureusement que je ne me réfère pas à la tradition de l'Advaita.
D'ailleurs, je ne serais pas là si tu faisais pas, tu n'es pas heureusement, parce que tu ne fais pas partie des gens de Neo-Advaita, parce que j'ai horreur de ça. La Neo-Advaita,
c'est une création. Je ne sais même pas ce que c'est. Pour moi, c'est une création de ceux qui ont appelé ça Neo-Advaita, pour moi. Mais peu importe, moi, je ne me réfère pas à une tradition ou quelque chose comme ça. Je pioche à ce qui me sent, à ce qui vibre en moi, parce que c'est ce que je vois, parce que c'est ce qui est réalisé là. Que ça devienne de l'Advaita, du néo-Advaita, ou de je sais pas quoi, ou du soufisme, ou de je sais pas d'où, je m'en fiche, ou de la tradition populaire, les gens heureux n'ont pas d'histoire, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Parce que moi, tout d'un coup, ça a pris sens avec la relation. Ah oui, bien sûr, les gens heureux, ils n'ont pas d'histoire. Ils ne croient pas aux histoires qu'ils peuvent se raconter. Et on est heureux parce qu'on ne croit pas à l'histoire. C'est complètement non-duel pour moi, cette phrase-là. Mais je l'entends complètement autrement. C'est... oui, on ne croit pas aux histoires. À tout ce qui peut arriver, on n'en fait pas une histoire. Donc forcément, on est heureux. C'est tout bête. Mais ça, c'est la tradition populaire, tu vois. Donc je suis un adepte de la tradition populaire. Ça me va bien, ça. Et je veux dire, ce qui va nous aider, c'est de regarder. C'est pas tellement de parler autour d'eux. Même si les concepts évoqués par les autres nous parlent, même si ces concepts ont du sens, même si ils sont pleins de science et de raison, etc., ça va pas faire que, ou alors par miracle, c'est pas un regard qui se pose sur ce qui arrive là maintenant. C'est pas cette nudité de « mais qu'est-ce qui est vrai là maintenant ?»« En moi, pour moi. » Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Oui, vas-y, c'est bien.
Je voudrais travailler sur un aspect particulier qui pose un problème de vie. Lorsque j'ai les yeux fermés, je suis dans la présence. Et donc, et en fait, je vois plein d'énergie, je travaille avec les émotions, etc. Tout est fluide. J'arrive à être bien centrée. Je ne sais pas comment l'exprimer.
C'est clair.
C'est comme si j'étais dans des ouragans. Mais je vois tout ce qui se passe, je suis dans la présence. Donc, tout ce qui me traverse est vécu dans l'accueil.
Et en liberté.
Voilà. ma difficulté, c'est les yeux ouverts. Et là, je suis complètement... c'est comme si j'étais coupée de moi-même. Et je reçois tout. En fait, je... Tout... Comment dire ça? Tout est perçu comme des rayons de soleil. Les sons, les vibrations qui me transpercent. Et je vibre véritablement.
Les sons, les vibrations, quand elles sont fermées, ne te transpercent pas?
Si, mais je suis dans la présence. Comment dire ça?
Non, c'est clair. Quel est le mécanisme au moment où tu ouvres les yeux?
Je ne sais pas.
Regarde, ferme les yeux. Et demeure dans la présence. Prends le temps d'asseoir cette présence. Et maintenant, écoute. Garde les yeux fermés, mais écoute. Il y a quelques bruits.
Oui, j'entends également après du silence sur ces différentes manifestations.
Et tu entends aussi les bruits?
Tout à fait.
Ils te transpercent?
Non, parce que...
Pas de parce que.
Il n'y a que parce que, c'est-à-dire... Parce que je suis dans un espace. Enfin, je suis dans un espace avec... ce qui perçoit et ce qui est perçu. Enfin, je sais pas comment. Ce qui perçoit, constate le perçu.
D'accord. Ok. Reviens juste à la présence. Qu'est-ce qui vit dans cette présence-là maintenant?
C'est-à-dire que la puissance du perçu, c'est difficile de parler d'énergie.
Tu peux parler d'énergie, ça ne me gêne pas.
Je me sens comme plaqué par l'énergie. C'est maintenant, mais je le... C'est accueilli.
Plaqué contre quoi?
Ce qui perçoit, enfin... Ce qui perçoit. Il y a un point au niveau du cœur, au niveau de la colonne vertébrale.
Qui est fixe. Tu viens d'ouvrir les yeux. Est-ce que tu as perdu la présence?
Là, non.
Non.
Mais je me perçois. Que...
Reste avec. Oui. Tu as un point d'ancrage à la présence, là, tout de suite. Tu sens ça?
Oui.
Ferme les yeux. Quand ça devient trop difficile, referme les yeux. Tu peux rouvrir les yeux. Garde le point d'ancrage.
Mais j'ai remarqué...
Oui.
Quand les yeux sont ouverts, il y a petit à petit une diminution de la fréquence, la perte du contact. Et quand ce contact n'est plus perçu, le corps devient devient très spongieux.
Spongieux à quoi?
Tout ce qui en vient. Et le corps s'alourdit, la pesanteur du corps est. Et tout est vécu de manière très émotionnelle. Et c'est comme s'il y avait une prison qui m'empêchait d'être, d'exprimer. Je vois des grilles, enfin, c'est du perçu, bien sûr. Hein. Mais je n'arrive plus à.
Oui, tu es une vraie éponge à tout ce qui t'entoure.
Je n'arrive plus à regarder de manière transparente une fleur, la vie.
Si tu gardes le contact, ferme les yeux, tu reviens à la présence, tu gardes le contact, au moment où tu ouvres les yeux, tu arriveras.
Pardon, oui.
Tu vois?
Oui.
Ça, je sais ça, parce que je viens de le voir se produire, hein. Maintenant, tu as ce côté spongieux. C'est vrai que tu es une vraie éponge et tout ce qui t'entoure. Et ça, c'est. Tu n'arrives pas à le gérer. Tu ne sais pas quoi en faire.
Lorsque je suis dans la présence, les choses sont plus fluides, sont plus canalisées. Et le corps.
Quand tu es dans la présence, tu es beaucoup moins affecté par tout ça.
Pardon.
Tu es beaucoup moins affecté par tout ça. Et à la limite, presque. Pas tu le tiens à distance, mais ça t'effleure, quoi.
Oui,
sans pénétrer complètement.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que des mouvements d'énergie. Je suis là et les mouvements d'énergie se balayent.
Voilà.
Me traversent, mais dans la transparence. Ouais. Ce qui permet au corps d'être. De garder. D'être préservé, entre guillemets. Ce qui n'est pas le cas quand j'ai les yeux ouverts. Et ça empêche de vivre véritablement.
Je vais te demander d'essayer quelque chose qui est les yeux ouverts, de t'expanser encore plus. Comme si tu n'étais pas du tout limité au corps, mais l'univers. Commencez alors.
Je suis. C'est comme si j'avais un collier là, noir. Je sais pas, j'ai quelque chose qui serre. Je sens quelque chose qui, au niveau des bras, quelque chose qui s'expose.
T'arrives à t'expanser?
Oui.
Jusqu'où? Avoir l'impression comme ça d'être pas du tout limité au corps, mais beaucoup plus large.
Oui.
Jusqu'où?
Oui. Oui, la pièce.
Plus grand que ça?
Oui, plus grand, oui, la rue.
Encore plus grand. Encore plus grand. Te limite pas. L'univers.
L'espace.
L'univers entier, oui. L'espace entier.
Ça dépasse les trous noirs, c'est
possible. Ouais. Et le temps maintenant. Tu t'expanses à travers le temps. Passé, présent, futur. Tout à la fois. C'est comment? Inclus-moi dedans. Inclus tous les maîtres dedans. Ils y sont de toute façon, mais. Je ne suis pas un maître, mais tu vois ce que je veux dire. T'as un sourire, là. Tout ce qui avant te traversait est complètement contenu à l'intérieur, maintenant. Tu vois ce que je veux dire?
J'ai le collier.
Oui. C'est pas grave.
Je suis comme attachée à quelque chose qui m'attache.
Oui, quelque chose qui t'attache. C'est pas grave.
Oui, bon, certes. Et je sens pas encore. Enfin, je sens. Il y a l'opacité.
Bah oui.
Mais pourtant, ça sert à rien. La présence.
Oui, il y a une opacité. Et alors, il n'y a rien de grave. Elle est accueillie, l'opacité, tu vois. Même le collier peut être accueilli. Il n'y a pas besoin d'en faire une histoire. Tu vois. Alors, tu peux rejoindre un espace de tranquillité. Tu es l'espace de tranquillité au sein duquel tout arrive, dans ce cas-là. Est-ce que ça te parle ce que je te dis ou pas?
Oui, mais je ne le vis pas. Là, ici, maintenant.
Qu'est-ce que tu ressens là maintenant? Ferme les yeux, si ça ne va pas. Je te propose de fermer les yeux et tu les gardes ouverts en attendant, tu vois. Ok, non, mais c'est ok que tu les gardes ouverts. Je sais que c'est pas si dramatique que ça.
Je pensais les avoir fermés.
Non, c'est comment tu te sens là maintenant? Comment tu te ressens? Pas de menace. Hein, tu réalises ça?
Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Non, mais c'est pas. Je sais pas. C'est pas ce qu'il y a derrière qui fait.
Évidemment pas.
Je sais pas. Ou j'ai peur de pas y arriver.
Comment tu te sens là tout de suite?
Je sais que ça. C'est pas tellement dans les mains. Il y a quelque chose qui se libère derrière. Devant, il y a encore. Il y a comme un écran. Et derrière, ça gonfle. Quelque chose qui gonfle de derrière. Il y avait une voix pour moi devant, ça soufflait derrière.
En tout cas, il ne se passe rien de dramatique.
Non, c'est le contraire.
Ah.
Au contraire, c'est comme si je revenais à la vie.
Ah, et t'as les yeux ouverts. Waouh. Simple. Pardon? Ah oui, c'est parce que je suis là. Saint-Gérard, priez pour nous. À mon œil. Tu ne me feras pas avaler cette pilule-là.
Non, mais tu es là.
Ce que c'est là.
C'est là, pardon. Non, excuse-moi les mots.
Ce que je te montre, c'est que. Je comprends très bien ce que tu vis. Parce que moi aussi, je suis une vraie éponge depuis que je suis gamin, depuis que je suis né. Et ça a été vraiment très souffrant pendant des années et des années. C'est aussi pour ça que je suis devenu psy. Donc je comprends très bien la souffrance que ça peut être d'être une éponge incomprise, Parce que personne ne sait ce qui se passe pour toi, mais toi, tu vis tellement de trucs que tu ne peux même pas les formuler. On peut te prendre pour fou, ouais, c'est bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ça te parle? Voilà. En fait, si tu veux, heureusement, je suis devenu psy, ça m'a bien aidé, parce que la sensibilité extrême en psychothérapie, ça aide, ça permet de sentir ce que vivent les autres. Donc ça a pu se canaliser aussi comme ça. J'ai vu que c'était une qualité, et pas seulement un truc terrible, dramatique, qui m'empêchait de vivre une vie heureuse. Tu vois? Et toi, pour l'instant, le drame que tu fais autour du fait que tu es une vraie éponge, et pour plus de 50% c'est 90% de la souffrance que tu éprouves. 90%. C'est le drame que tu en fais. C'est pas le fait d'être une éponge. J'en suis une. Tu vois? Et ça, c'est pas arrêté avec l'éveil, hein, crois-moi. Ce serait même plutôt un peu l'inverse. Sauf que ça affecte pas. Parce que, si tu veux, à partir du moment où tu en fais un drame avec l'idée que ça t'empêche de vivre, que c'est des attaques, que tu peux pas comme ça, que c'est trop pour toi, tu fais de toi un petit être chétif qui peut que souffrir, une victime.
Je ne suis pas. Quand j'ai les yeux fermés, je ne suis pas.
Oui. Donc tu ne l'es pas en réalité.
Je ne suis pas.
Donc c'est en réalité, tu ne l'es pas. C'est une impression que tu as quand tu ouvres les yeux. C'est une impression que tu as quand tu ouvres les yeux.
Je ne sais pas quoi faire. Je me suis.
Oui, mais bien évidemment. Tu es comme un petit enfant à qui il arrive tout plein de trucs. Évidemment, tu ne sais pas quoi faire.
Mais mon corps ne fonctionne plus.
Moi, c'est faux. Il continue à fonctionner. Ça continue à respirer. Le cœur continue à battre. Et l'intestin est digéré.
Précise.
C'est-à-dire, par exemple, dans la vie, la communication,
c'est un effet secondaire. C'est un effet secondaire du drame que tu en fais. C'est ça que je t'explique. Ta souffrance provient du fait que tu en fais un drame. Pas du fait que tu es une éponge. Et je sais de quoi je parle. Et je le vois chez toi.
Il y a une intelligence de la vie, pas du tout une éponge.
Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, mais ce qui se passe, c'est que. Ce que je remarque, c'est que ça abaisse les fréquences du corps.
Et parce que tu en fais un drame, fais-en une joie. Imagine que tu sois super heureuse d'être une éponge et de capter tout ce qui se passe autour de toi. Ça va élever tes vibrations.
Essaye, tu vois.
Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, tu vis ça comme un handicap.
Oui, parce que je vois que ça alimente la personnalité. Ça l'alimente.
Parce que tu en fais un drame. Faisons une joie, un don de Dieu. Ça change complètement la couleur.
Je sens cela simplement actuellement, vu cette différence entre les yeux ouverts et les yeux fermés, je vois bien qu'il y a un potentiel. Mais
je viens de te le faire sentir, le potentiel. Au lieu de te ressembler à ta toute petite personne, de tout petit corps, de tout petit bébé maltraité, expanse-toi, et au lieu que ça arrive à toi, ça arrive en toi. Okay. Mais déjà, tu vois que c'est déjà différent quand tu le fais ça, par exemple. Mais simplement, ce que je voulais te montrer à travers ça, c'est que tu peux avoir les yeux ouverts et que finalement, tu n'es pas si affecté que ça. À partir du moment où tu t'extenses. Déjà, tu vois? Et en plus, et surtout, ce que je veux surtout te montrer, c'est que l'idée que tu t'en fais, c'est 90% au moins de ta souffrance. Considère que c'est un don du ciel. Et c'en est un. Et ça va complètement changer ta perception. Et puisque Dieu t'a donné ça, c'est que tu as les capacités pour en faire quelque chose. Sinon, tu ne l'aurais pas. C'est bête comme chose.
J'étais thérapeute avant. Et avec ce problème-là, je suis arrêtée. Enfin, pour entre autres, parce que, en fait, je m'affaiblissais au niveau du corps.
Tu donnes trop. Ah, tu es trop concerné par ce qui arrive aux autres.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, je me rends compte au contact de trucs, souvent, je reçois tout.
Tu les prends trop pour des victimes.
Pardon?
Tu les prends trop pour des victimes. Tu crois vraiment qu'elles souffrent, et que c'est même pas leur faute, et que tu vois, et que les pauvres petits, qui projettent ton histoire, et c'est pas vrai. Personne souffre. Si, tout le monde souffre. Non, personne souffre. C'est la même chose.
Regarde hier les enfants. Tu penses aux enfants qui sont maltraités, tout ça. Regarde dans quel état ça te met. Alors qu'on ne sait même pas de quoi on parle.
C'est autre chose. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément la même gamme. Moi, si j'entends parler d'enfants maltraités, je peux même devenir violent. Ça m'atteint vraiment profondément.
Oui, bien sûr.
Et en même temps, j'en suis libre. Pas complètement. Parce que si je le vois faire sous mes yeux, je peux te dire que ça va
bouger. Oui, c'est factuel, ça.
C'est factuel.
Oui, voilà, on est d'accord.
Oui, tout à fait.
Et toi, tu vas réagir, tu vas vouloir intervenir
si ça se passe sous mes yeux.
Comme tu disais, tu faisais le SAMU, tu regardais les choses, tu intervenais, tu faisais ça automatiquement.
Exact.
Et c'est là où tu étais efficace. Mais là...
Je crois que j'étais un peu efficace dans d'autres situations.
Non, mais je veux dire, t'avais pas, si tu étais affecté, tu ne pouvais pas intervenir.
Mais je ne dirais pas qu'on n'est pas affecté, mais ça passe au second plan. C'est pas dans des cas comme celui-ci.
Mais tu ne vis pas dans ton corps. Moi, ce qu'elle dit...
Bien sûr que si, je le vis dans mon corps.
Moi, quand je vois quelqu'un qui souffre, je souffre à l'intérieur, c'est-à-dire que je sais pas ce que tu vis, mais moi je ressens la souffrance. Je vois un accidenté ou n'importe qui souffre,
mais
je le ressens
comment,
dans mon corps.
Comment puis-je parler pour elle de ce qu'elle ressent si je ne le ressens pas en moi?
Bien sûr.
Tout ce que j'ai dit à propos de Sonia, je le ressens en moi, sinon je pourrais pas le dire.
C'est déjà reconnu.
Mais si tu as tellement mal, tu peux plus agir au bout d'un moment. Parce que quand tu t'as très très mal...
C'est connu comme n'étant pas moi. C'est connu comme arrivant en moi. C'est ça la différence. Mais bien sûr que si, je le ressens.
Tu le vis physiquement.
Évidemment.
Ça le détruit pas.
Et ça le détruit pas, voilà. C'est ça. Mais c'est bien. Moi, j'aimerais pouvoir faire ça aussi.
C'est le fait d'expanser qui permet de voir que ça arrive
en moi. Non, c'est juste... Là, c'est juste... Moi, je l'ai fait aussi avec elle, pour que comme ça, mais je ne le fais pas. J'en sais rien, je m'en fiche de tout ça. Ça, c'est de la stratégie. Après, ça ne m'intéresse pas. Là, ce que je voulais, c'était que tu puisses percevoir autre chose que ce que tu as l'habitude de percevoir. Tu vois ? C'est pas, je viens de créer l'exercice avec elle.
C'est pas un truc qui m'a
fait mal. Voilà, entre guillemets, l'exercice. Tu vois, je veux dire, non pas que ça soit jamais arrivé, ça arrive constamment, mais j'en ai jamais fait une stratégie ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est pas mon but. Mais évidemment que je ressens en moi plein de choses de ce que les autres vivent. Mais je ne suis pas le seul. Vous aussi.
Il y a beaucoup de gens, je ne sais pas comment toi tu fonctionnes. Moi, je regarde un truc à la télé, je vois des gens qui pleurent, je pleure tout de suite. Je connais même pas leur histoire, je pleure avec eux.
Mais moi aussi, je suis très touché par les trucs à la télé.
Je connais plein de gens qui me disent, mais c'est ce que tu as, mais tu ne les connais pas.
C'est de l'amour. C'est de l'amour, Sylvie. Oui. C'est de l'amour. C'est de la compassion, ce que tu ressens.
Ben après, on m'a dit plusieurs fois, mais la compassion, c'est pas ça. Si toi, à chaque fois, tu prends toute la souffrance du monde pour toi, c'est pas
Alors,
ça la vérité.
Est-ce que tu souffres comme eux? Ou est-ce que tu reconnais leur souffrance et que tu es avec eux?
Je sais pas.
Ben regarde. C'est de l'amour, je veux dire. Pour moi, c'est complètement de l'amour.
Oui, parce qu'en même temps, il y a un sentiment d'amour, c'est vrai. Il y a un sentiment.
Mais évidemment. Et si tu reconnais le sentiment d'amour, tu vas voir que tes larmes vont être douces, elles vont être bonnes. Et là, à ce moment-là, c'est l'amour qui commence à s'exprimer pour ces gens. J'en ai une larme aux yeux, rien qu'en parlant, moi, tu vois. Moi aussi, je pleure devant la télé, qu'est-ce que tu crois?
Mais il y a beaucoup de gens qui pleurent pas du tout, mais ça leur fait
rien. Pour ça que je te dise, moi.
Ça leur fait rien. Ils n'expriment pas, mais ça peut leur faire quelque chose sans expression.
Peut-être aussi qu'ils n'ont pas conscience de ce que ça leur fait.
Qui font en sorte de mettre un écran, mais il y en a d'autres qui ressentent vraiment rien, qui disent mais je comprends pas comment ça se fait que toi tu ressens des choses comme ça.
Bah c'est tout. Peut-être qu'ils sont moins sensibles ou plus coupés, ou j'en sais rien. C'est différent.
Ils peuvent sentir lié au vibratoire, mais pas forcément au niveau émotionnel. On peut sentir un différent niveau aussi.
Je ne fais pas la différence. C'est la même chose. L'émotion, c'est une vibration. Tout est vibration. Mais entends vraiment ce que je dis, Sonia, à savoir que 90% au moins de ta souffrance est liée à la façon dont tu prends ce qui t'arrive.
En fait, j'ai bien compris. Mais il y a quelque chose de très important dans l'exercice qu'on a mis en œuvre. C'est que par le travail d'expansion, en fait, c'est ça qui me manquait. Je vais donner une image, ça peut être comme un voile transparent. De manière à ce, parce que quand la perception que j'avais, c'était
condensation du corps.
Exact.
Et en fait, ça permettait attaqué. À tout ce qui se passait de venir.
Oui. Et l'impression que ça donne, oui. C'est que tout ce qui se passe,
t'es concentré, voilà.
Te tombe dessus.
Voilà. Et là, avec cet exercice,
oui.
Le fait de m'expanser,
oui. Ça tombe dans
c'est
le
vide. Comme si je, voilà, c'est comme si la transparence, la transparence que je ressens à l'intérieur, peut se manifester à l'extérieur et me traverser.
Exact.
Et en fait, c'est ça.
Voilà.
C'est
et ça que... En tant qu'espace,
voilà.
Voilà. Ça traverse l'espace, ça voilà. Fait perdre mal à personne.
Voilà. Et c'est ça qui me manquait.
Ouais.
Pouvoir ressentir les yeux.
Bah, refais l'exercice aussi seulement que ça te paraît opportun pour toi, tu vois. Et si c'est difficile, pense aux grands sages, aux grands maîtres qui sont là de toute façon avec toi, celui que tu veux, je veux dire, le Christ, le Bouddha, Ramana Maharshi ou je ne sais pas qui tu veux, tu vois, pour que ça t'aide, soit avec eux, ou avec lui, si t'en as qu'un, je m'en fiche moi, tu vois, soit avec ce qui t'aide pour que ça puisse, pour que vraiment tu puisses rentrer dans cette dynamique. Regarde le Christ, tu crois qu'il sentait rien? Il sentait tout, tout. On touche son manteau, il dit, qui est-ce qui m'a touché? Le manteau. T'imagines?
Alors les points.
Il sentait tout.
De toute façon, le corps n'est qu'énergie. Oui. Donc il n'y a pas de séparation.
Oui.
Ce n'est qu'une perception sensorielle.
Oui. Donc tu ne peux pas être attaqué. C'est une énergie qui pénètre une autre énergie, des énergies qui jouent ensemble. Il ne peut pas y avoir d'attaque. Et tu ne peux pas être la victime de quoi que ce soit. Tu ne peux pas être petite et chétive.
Dans cette perspective d'expansion...
Dans cette perspective d'énergie. En tant qu'énergie. Dans la perspective d'expansion aussi, bien sûr.